Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le titre pour aujourd'hui, c'est « Renouveler votre vie d'église ». Donc, je voudrais partager avec vous plusieurs pensées sur l'Église. L'Église de Jésus-Christ, ce que c'est, ce que ça représente pour nous d'avoir une vie d'Église. Et surtout, quel peut être l'intérêt d'en avoir une. Parce que si ce n'est pas intéressant, il vaut mieux l'oublier et faire autre chose. Mais donc, en introduction, j'aimerais juste dire deux, trois mots. Et puis, si vous me permettez, je vais vous lire un extrait d'un livre de Claude Payan, qui s'appelle « Changement de mentalité dans l'Église, en vue d'un réveil ». Quels sont ceux qui l'ont déjà lu, ce livre, juste pour un petit sondage? Non? Ça sera d'autant plus intéressant. Un changement de mentalité, c'est une expression que nous connaissons bien, sous une autre forme. Si vous connaissez Romains 12, il dit « Renouvelez votre pensée par la parole de Dieu ». Certaines choses que vous pensiez avant, maintenant vous ne les pensez plus, parce que vous avez découvert la pensée de Dieu. Et vous avez réalisé, mais la pensée de Dieu, elle est mieux pour nous que ce que je pensais avant. Et donc, vous renouvelez votre pensée, et là aussi, renouvelez votre vie d'église. Alors, nous sommes dans une période où il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous. L'église n'est pas juste appelé à être un petit groupe refermé sur soi-même, comme dans un bocal. Hein, notre ami Michel Petz nous disait que l'église locale ne doit pas devenir une église bocale. Parce que sinon, ça tourne au vinaigre et on finit tous par des cornichons. Donc réfléchissez à ça, ce sont des paroles vraiment importantes, mais elles sont tellement vraies. Donc quand on se referme sur toi, il y a des choses qui ne sont plus normales. C'est comme quand vous n'aérez jamais une pièce. Ce n'est pas normal. Au bout d'un moment, l'air n'est plus renouvelé. Non seulement ça commence à sentir mauvais et renfermé, mais en plus de ça, pour vous, ce n'est pas bon. Vous manquez d'oxygène. Donc, il y a besoin de certaines ouvertures. Donc, l'ouverture, ce n'est pas se laisser imprégner par l'esprit du monde, mais de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment vivent les gens. Comme faisait l'apôtre Paul dans ses voyages missionnaires, il observait, il regardait les choses qui se faisaient autour de lui et il s'en inspirait pour apporter un message qui parle davantage aux gens. Une illustration de ça, c'était dans l'église d'Athènes, par exemple. Il a vu là une statue et c'était écrit « Au Dieu inconnu ». Au Dieu inconnu. Alors il a dit « Ce Dieu que vous connaissez pas, c'est le Dieu que moi je prêche. » Il s'est servi de ce qu'il a vu autour de lui pour apporter l'évangile. Donc, les gens ne sont plus d'accord de se plier à certaines traditions. Il y a un certain nombre de choses qui a changé dans les mentalités des gens de notre époque. Et ça a une influence sur l'Église. Et ça doit avoir une influence sur la façon dont nous vivons et voyons l'Église. Donc, je lis maintenant ce passage de ce livre. Alors il dit « Ne pas cesser de croire dans l'Église ». Lorsqu'on vient à Christ, une merveilleuse vision de son corps nous est communiquée. On croit à l'Église sans difficulté. Mais après plusieurs années de conversion, ou plusieurs années où on est membre d'Église, où on fréquente les milieux chrétiens, on a plus de mal à garder cette vision. Néanmoins, toutes les erreurs, incapacités, maladresses, péchés des chrétiens n'empêcheront pas Jésus d'avoir une église glorieuse dans ses temps. Et si plusieurs d'entre eux ne croient plus en l'église, j'ai une nouvelle pour vous, Jésus y croit toujours. Car il a la puissance de l'amener à devenir ce qu'elle doit être. Il dit à Pierre au sujet de l'Église que « les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle » Matthieu 16, 18. Jésus a eu toutes les raisons de cesser de croire dans ceux qui l'accompagnaient. Et pourtant, Le fait qu'il ait décidé de monter quand même sur la croix nous montre qu'il a continué de croire en eux et en l'avenir de son Église. À plus forte raison devons-nous y croire. La bande à Jésus, entre guillemets. Dans les évangiles, on voit Jésus choisir des disciples, mais ceux-ci ne vont pas toujours être pour lui un sujet d'encouragement. La bande à Jésus a de quoi décomplexer chacun de nous, et particulièrement ceux qui se lèvent pour servir. Dans un premier temps, un certain nombre de personnes suivent le Seigneur. Voilà qu'il leur met deux points sur les i, et tous s'en vont sauf les 12. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» C'est dans Jean 6, 66-67. La première cellule de maison de Jésus a explosé. Ça décomplexe. Le fait que des gens quittent votre église ne doit pas vous faire remettre en question votre vision. Et là, j'ai aussi le désir de vous lire ce passage dans Jean 6, dans la version Parole vivante. En fait, de quoi il est question ? Il est question de notre sujet, changer de mentalité, voir certaines choses autrement. Ça veut dire que quand on entend des paroles de Jésus, ça nous lance un défi par rapport à notre façon de voir les choses jusqu'à présent. Et donc, c'est un challenge, un défi qui nous est relevé de dire, est-ce que tu vas te laisser transformer ou est-ce que tu vas t'agripper, te laisser enfermer dans des situations, dans des façons de faire que tu as toujours eues. Et des fois, ceux qui ne veulent surtout pas avoir de traditions et de coutumes s'en inventent des nouvelles dans lesquelles eux-mêmes sont de nouveau prisonniers. Donc, il est important de voir quel est le changement que le Seigneur apporte. Alors, de ce passage, je vais lire ici. Après les déclarations de Jésus sur son corps, « Vous devez manger mon corps », il avait dit. Alors, ils étaient choqués. Alors, il leur dit, « Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent. C'est trop fort. On n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage. Qui peut continuer à l'écouter ?» Jésus savait fort bien en lui-même quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque, mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui le croyaient. Pas vraiment. Et qui était celui qui allait le trahir? Aussi ajouta-t-il. C'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne vient lui-même à moi. Il ne peut venir que si le Père lui en donne la possibilité. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre. Et refusant de le suivre plus loin. Alors Jésus se tournant vers les 12 leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous, nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Donc, vous voyez, il y a cet épisode que nous venons de lire, mais il y a d'autres aspects. Il dit ici, dans le livre à nouveau, « Parfois, ça vole au ras des pâquerettes parmi les 12. » À un moment donné, ils discutent entre eux pour savoir qui était le plus grand. Point de théologique de première importance, c'est évident. Marc 9, 33-34. C'est de l'ironie, hein, je précise, pour ceux qui n'ont pas saisi. Ce n'est pas un point théologique de première importance qui est le plus grand. Ailleurs, la mère des fils de Zébédée demande à ce que ses deux fils soient assis dans le royaume de Dieu, l'un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus. Matthieu 20, 20. Elle est venue avec eux. Ils étaient donc dans le coup. Ils n'ont pas essayé d'empêcher leur mère. Allons, maman, arrête. Ces grands disciples destinés à chambouler le monde ne sont encore que des fils à maman. Les 12 colonnes mettent un certain temps à devenir solides. Elles ne sont pas au premier coup d'œil ce qu'on pourrait imaginer que Jésus ait besoin. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus arrive avec son équipe d'intercession. Il ne tarde pas à se retrouver seul à prier. Plus d'équipe, ils dorment tous. Combien de chrétiens en veulent à tout le monde parce qu'ils se retrouvent seuls à la réunion d'intercession? On vient pour le saisir et non, c'est pas possible. Si, ils s'enfuient tous. Puis Pierre, qui ne fait rien à moitié, le renie 3 fois, sans parler de Judas, qui l'a vendu. Après sa mort, ils ont du mal à croire sa résurrection, alors qu'il les y a préparés pendant 3 ans et demi. Les femmes venues au tombeau sont quelques instants accusées de divaguer lorsqu'elles disent qu'il est ressuscité. Quand la majorité est convaincue, Thomas insiste encore pour mettre ses doigts dans les trous de ses mains pour croire. Et vous, vous vous tracassez parce que tout le monde ne vient pas régulièrement en réunion? Que certains ont du mal à capter ce que vous leur dites depuis des années dans leur intérêt? Et vous menacez de tout envoyer promener? Jésus a raisonné et vu les choses différemment. Il n'est pas ressuscité en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous m'avez tous lâché dans le jardin, moi qui comptais sur vous. Cela fait 3 ans que je vous dis que je dois ressusciter. Maintenant qu'on y est, vous n'êtes plus sûr de rien. C'est pour cette drôle d'équipe que j'ai donné ma vie? C'est avec ça que je vais bâtir mon église ?» Non, il a continué de croire en ses disciples. La paix soit avec vous. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous » Jean 20, 19 à 22. Les disciples n'ont pas dû se sentir très à l'aise lorsque Jésus est apparu. Ils ont pu penser que le moment de régler les comptes était arrivé. J'imagine Thomas dire « Bon, moi je vais aux toilettes. » Excuse pour filer. Mais lorsque Jésus déclare « La paix soit avec vous », ils ont dû être soulagés. Il aurait pu dire à Thomas « Tu voulais voir mes mains? Approche, tu vas les voir de plus près. Splash !» Mais non, il leur dit que la paix soit avec vous et il leur confie la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Quel amour, quelle confiance! Comment faisons-nous au sein du corps de Christ pour nous détester à un tel point, parfois, à cause de ce que nous ont fait les uns et les autres, alors que ces choses ne correspondent pas au 1/10 de ce que les disciples ont fait à Jésus? Pour le Seigneur, le reniement de Pierre ne remettait pas en question la demande qu'il lui avait faite de paître un jour ses brebis. La trahison de Judas ne remettait pas en question la sincérité des autres. Combien de gens, lorsqu'ils ont un problème avec quelqu'un dans leur église locale, accusent toute l'église? Il n'y a pas d'amour dans cette église. Jésus voit plus loin, il regarde au cœur. Il nous enseigne à passer au-dessus de tout pour voir l'essentiel. Son épouse en cours de devenir glorieuse. Jésus aussi, avez-vous perdu la vision de l'Église glorieuse? Certains ne croient plus en l'Église parce qu'ils ont une mauvaise expérience avec un pasteur. Pour d'autres, quand ils sont entrés dans une Église, personne ne les a accueillis. Terrible, n'est-ce pas? Pour d'autres encore, leurs parents ont manqué de sagesse. Ils leur ont fait manger « du Jésus », entre guillemets, matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'ils en soient écœurés. Je précise ça, c'est la plupart du temps, c'est pas vraiment le Seigneur Jésus qu'on propose, mais on veut gaver les autres de religion. Pour d'autres encore, leur père pasteur faisait à la maison le contraire de ce qu'il prêchait, etc., etc. Toutes ces raisons sont valables humainement. Le seul problème, c'est qu'elles ne sont pas spirituellement valables. Vous avez été trahi, Jésus aussi. Vous avez été déçu, Jésus aussi. Vous avez été abusé, Jésus aussi. Méprisé, Jésus aussi. Rejeté, Jésus aussi. Ça ne l'a pas empêché de vouloir monter sur la croix pour les péchés du monde. Un défi. Le diable veut également faire perdre la vision de l'Église au pasteur. Au pasteur au pluriel. Tous ceux qui sont engagés dans le ministère. Car le ministère de pasteur a été placé pour aider plus particulièrement l'église locale. C'est parfois dur de ne pas juger ses leaders, mais c'est dur aussi pour les leaders de ne pas juger les gens de l'Église. Certains sont très engagés, toujours prêts à aider, soulager, mais pour toute une autre catégorie, c'est dur de ne pas être déçu par eux. Ils ne sont jamais là quand on en a besoin, ne vont au bout de rien de ce qu'ils entreprennent, s'engagent pour mieux se désengager, refont depuis des années toujours les mêmes erreurs, etc. Néanmoins, si Jésus a supporté ses disciples si imparfaits, il y a de l'espoir pour tous. Pour toi, pour moi. Revêtons-nous de sa mentalité. Adoptons sa façon de penser et de voir les choses. Voyons plus loin. Trop de personnes regardent aux hommes au lieu de regarder à Jésus. Bien sûr, nous devons avoir des hommes comme exemple, mais quand on perd la vision de l'Église à cause des problèmes qui s'y trouvent, c'est parce que l'on a plus regardé aux hommes qu'à Jésus. Quand vous regardez à Jésus, vous êtes imprégné de sa foi dans l'avenir de son Église. Jésus a foi dans son Église, puisqu'il a toujours prévu de venir la chercher. Avez-vous reçu un email ou un fax du ciel disant qu'il avait changé ses plans, du style « Tout compte fait, on va annuler la promesse de mon retour, dit le Seigneur, vous n'en valez vraiment pas la peine. » Je n'en ai pas reçu en ce qui me concerne. Non, les noces de l'agneau n'ont pas été annulées dans le plan de Dieu, et chacun de nous est appelé à participer à la préparation de l'épouse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. Jésus ne vient pas chercher une épouse en haillons. On l'a chanté tout à l'heure. Tu as fait de mes haillons, tu l'as changé en vêtements de fête. Il ne vient pas chercher une épouse en haillons, mais glorieuse. Elle va donc, même si ça le semble difficilement imaginable aujourd'hui, devenir glorieuse. C'est sa destinée, il ne peut en être différemment. Voilà pour la petite introduction de la lecture. Vous ne vous rendez pas compte, c'était si long, mais c'était très intéressant, n'est-ce pas vrai? Pour remettre des choses en place. Et donc l'exhortation que je voulais vous donner est déjà bien entamée, de renouveler votre façon de voir l'Église et de vivre l'Église. Mon premier point, c'est n'allez pas à l'Église. Mais soyez l'Église. C'est totalement différent dans la façon de voir. Combien ont du mal avec ça? N'allez pas à l'Église, mais soyez l'Église. Remplissez-vous et renouvelez votre intelligence pour que vous soyez bien conscient que c'est la volonté de Dieu à votre égard. Combien sont attachés à un clocher? Et je me rappelle, j'ai parlé une fois avec un chrétien, il disait « J'aimerais tellement qu'on ait une petite chapelle. » Lui, il voyait une petite chapelle. C'était tellement sentimental, une petite chapelle. Là, on serait bien. D'autres recherchent du confort, d'autres recherchent du spectacle. Comme on va à l'église, comme on va au théâtre ou au cinéma, ou de voir quelque chose. Ce n'est pas ça, l'église. La réalité de l'église, elle est différente. C'est que nous sommes l'église. Nous sommes l'église où que nous allions. L'église, c'est deux ou trois rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça ne dépend pas d'un bâtiment, ça ne dépend pas d'une structure. Si après le Seigneur met des choses en place pour une église locale, s'il donne des ministères, tout ça vient après. Le plus important, c'est que vous soyez conscient que vous vivez la réalité de l'église. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous découvrez que c'est aussi un croyant, vous partagez des choses de Dieu, vous vivez une réalité de l'église. Vous êtes deux et trois assemblés en son nom, en train de partager et de vous édifier. C'est une réalité du corps. Vous le réalisez, ça? L'église n'est pas réservée au dimanche matin. Il n'y a aucune prescription dans la Bible qui dit que le dimanche matin, on doit se réunir. Nous avons choisi comme ça pour des raisons de coutume et de choses pratiques, parce que dans notre pays, il y a une certaine culture qui a voulu que la dénomination qui était dominante a pris un jour, qu'elle a appelé le jour du Seigneur, et que donc ça nous donne des possibilités de nous rassembler, parce qu'il y a moins d'activités professionnelles, mais tout ça, c'est des réflexions à faire. Donc, le plus important, c'est que vous soyez conscient que quand vous vous déplacez pour vous rassembler avec d'autres croyants, où que ce soit, vous n'y allez pas pour assister à quelque chose que d'autres font. Ce n'est pas, ou alors vous n'êtes pas en train de vivre l'Église. Vous êtes en train de regarder ce que d'autres font. Mais vous devez être conscient que lorsque vous y allez, vous êtes vous-même une part de l'Église. Vous avez votre part. Et je ne vais pas lire en détail, vous pouvez reprendre vous-même 1 Corinthiens 12 qui nous explique la réalité du corps et que chacun de ses membres joue sa part. Et que le plus petit, celui qui semble le plus insignifiant, est important pour que le corps puisse bien fonctionner. Et le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est quand on se blesse quelque part, même au petit doigt ou à l'orteil, et tout le corps en est affecté. Tout à coup, on est sensibilisé par une partie du corps, on ne fait pas attention. Mais donc, combien de fois faudra-t-il encore répéter jusqu'à ce qu'on ait la révélation de « oui, je suis important, oui, j'ai ma part », pas de « oui, je dois faire », c'est « oui, j'ai ma part, j'en fais vraiment partie ». Je ne suis pas quelqu'un d'inférieur. Je ne suis pas quelqu'un de moins important. Je ne suis pas la cinquième roue du carrosse, comme on dit des fois. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc, quand vous réalisez ça, le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Nous devons repenser l'Église, la repenser dans la façon dont nous pouvons faire les choses, dans la façon dont nous pouvons les vivre, et de réaliser que quelqu'un a dit, le Seigneur Jésus a déclaré « Je bâtirai mon Église », donc c'est lui qui l'a construit. Si on le voit que c'est sa responsabilité, on dit « Ben l'Église, elle est dans l'état où le Seigneur l'a faite. S'il est en mauvais état, c'est qu'il l'a mal bâti. » Mais comme les gens du monde disent la même chose, ils disent « Quand il y a une catastrophe, où est Dieu? Que fait-il ?» Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas seulement lui, c'est pas seulement nous, c'est ensemble. « Ouvriers avec Dieu », il est dit dans 1 Corinthiens. Nous sommes ouvriers avec lui. Quand il dit « je bâtirai avec ceux qui veulent bien que je puisse les bâtir, les utiliser et les placer où je veux. » Je me rappelle, un serviteur de Dieu avait reçu un jour, c'était une prophétie, mais sous une forme très expressive, imagée. Le Seigneur lui avait dit d'enlever ses chaussures, et puis il était dans la salle, hein, il n'était pas en train de prêcher, il devait enlever ses chaussures, y aller, et puis il devait monter son pied sur l'estrade, et la prophétie, sur le pupitre, prophétie c'était, quelqu'un ici est le pied dans le corps du Christ, et il n'aime pas être le pied. Mais... Donc nous devons réfléchir, quelle est la part que j'ai dans l'Église? Quelle est ma place? Est-ce que j'aime cette place? Peut-être vous dites non, parce que peut-être vous n'avez pas compris ce que le Seigneur veut faire au travers de vous. Vous dites, j'aimerais mieux cette place, mais nous on sait que maintenant si on me coupait la main ou met un pied à la place, ce ne serait pas vraiment ce qui serait le mieux pour le fonctionnement du corps. Dieu a une idée du fonctionnement du corps, et elle est meilleure que la nôtre. Et des fois, on a simplement des fausses idées, des complexes. Donc, soyez l'Église, soyez content d'être à la place où Dieu, lui, vous met. Peut-être les hommes se trompent des fois dans les responsabilités qu'ils prennent ou les responsabilités qu'on vous donne, mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Et donc, ayez en vous ce feu du réveil, cette capacité de voir que quand l'Église est ensemble, il se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs. Où est-ce que vous avez des promesses du style « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, Dieu le Créateur, le PDG de l'univers, a promis qu'il allait leur donner. » C'est une réserve de puissance inépuisable. Vous pouvez exercer votre foi tout seul, c'est vrai, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur des promesses spécifiques, comme par exemple « deux s'accordent, deux ou trois sont assemblés », et des choses comme ça. Et quand on a des moments difficiles, au lieu de courir loin de l'Église, les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rassemblèrent avec les leurs. Acte 4, il nous est dit, et ils ont prié, ils ont élevé la voix vers Dieu tous ensemble, en disant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous savez ce qui s'est passé? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, et il nous est dit, et l'endroit où ils étaient a tremblé. Il y avait une puissance qui se manifeste. Donc gardons cette façon de voir cette puissance. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens coucou. C'est cet oiseau qui pousse ce cri coucou. Et il a cette particularité qu'il ne construit pas son nid. Il utilise le nid de quelqu'un d'autre. Mais nous sommes appelés à défricher notre propre champ, pas essayer de prendre ce qu'un autre a déjà préparé. Il y en a qui veulent, comme on dit, prendre le train en marche. Il y a des gens qui ont construit les rails, d'autres ont construit le train et d'autres ont fait qu'il circule. Et puis, le passager, lui, a vraiment le rôle facile, hein, par rapport à l'ensemble de l'œuvre. Il faut juste qu'il paye son billet. Mais je veux dire, pour se faire emmener. Mais la réalité de l'Église, c'est pas ça. C'est pas juste, je m'accroche à la foi des autres. Non, je défriche mon propre champ. Je permets au Saint-Esprit d'agir au travers de moi. Parce que je suis l'Église. Je ne suis pas l'Église à moi tout seul. Je ne suis pas l'Église dans sa plénitude, je n'ai pas tous les dons et tous les ministères, mais je suis l'Église. Quand je vais quelque part, une partie du corps de Christ se déplace. Peut-être c'est plus efficace si plusieurs parties du corps de Christ se mettent ensemble, mais sinon, c'est une réalité. Donc, retenez, n'allez pas à l'Église, mais soyez l'Église. Soyez l'Église partout où vous allez. Le dimanche matin, soyez l'Église. Si c'est le mercredi soir qu'on se réunit, soyez l'Église. Si vous avez d'autres rencontres avec des chrétiens ou si vous avez simplement un témoignage à donner en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, nous sommes là, surtout sur terre, pour bénir les autres. La première raison pour bénir les autres, c'est de leur apporter la bonne nouvelle. La deuxième raison, c'est de les aider dans tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Et des fois, le fait d'aider les autres nous ouvre une porte pour l'annonce de la bonne nouvelle. Mais en tout cas, nous sommes là pour bénir, servir et être attentifs aux besoins qui sont là. Puisque le Seigneur lui-même, lui qui a fondé l'Église, a dit, le Fils de Dieu, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Deuxièmement, n'allez pas aux réunions, mais réunissez-vous. Il y a une grande différence. Réunissez-vous. Quelqu'un dit, on ne choisit pas ses frères et sœurs, mais on choisit ses amis. C'est ce qui est comme ça dans le corps de Christ. On n'a pas choisi forcément nos frères et sœurs. Peut-être on peut choisir d'aller dans une église locale plutôt qu'une autre. Mais en réalité, c'est que si quelqu'un est enfant de Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur en Christ. Des fois, on n'a peut-être pas envie que tout le monde sache que c'est mon frère ou ma sœur dans le naturel. Il y a des enfants aussi, ils peuvent être des fois fiers de leur famille ou pas fiers, c'est pas la question. Mais là, on ne les a pas choisis, mais on choisit ses amis. Ceux avec qui on est, amis, ça veut dire amitié, âme partagée. On partage les mêmes choses. Une chose fait que nous sommes des amis ici, c'est qu'on a Jésus comme ami, déjà. Il nous rassemble. Mais on n'est peut-être pas tous, de toutes les églises, appelés à être tous ensemble au même endroit, au même moment. Parce qu'il y a des besoins très différents. C'est pour ça qu'il y a aussi des églises de toutes sortes de styles. Mais donc, quand on dit « réunissez-vous », ce n'est pas juste. Je fais un programme d'église et je dis « maintenant, il y a réunion. » Et maintenant, vous venez à la réunion. Pour faire quoi? Pour assister? Pour regarder? Pour s'ennuyer? Non. « Réunissez-vous », ça veut dire retrouver des personnes qui ont une foi du même prix que la nôtre. Qui réalise ce que c'est d'avoir été arraché au présent siècle mauvais et être rentré dans le royaume de Dieu. Parce que si vous êtes tout seul, au bout d'un moment, votre foi risque de s'éroder. On risque de perdre de vue certaines choses qui, quand on est ensemble, on se stimule pour de nouveau être dans cet esprit de foi. 2 Corinthiens 13, 4 nous dit, nous avons ce même esprit de foi qui est en nous. Il se résume en quoi? J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est vraiment quelque chose, les gens peuvent dire, moi je crois dans mon cœur, d'autres peuvent faire de bonnes déclarations, mais nous on croit que c'est important on croit dans son cœur, on médite sur les choses de Dieu, on les repasse en nous, et puis on libère cette puissance par notre bouche. C'est quelque chose qui a changé notre vie. C'est quelque chose qui a amené des bénédictions dans beaucoup de situations. Donc, nous tenons comme précieuse cette foi du même prix que la nôtre, que d'autres peuvent avoir. Et moi, j'aime me réunir avec des gens qui partagent le même esprit de foi. Et si j'ai mes amis dans le ministère, et même s'ils me prêchent un message que j'aurais pu me faire moi-même, que je connais par cœur, ça stimule ma foi. Ça ravive ma foi et ça me, je ne vais jamais dire, oh, j'ai déjà entendu ça. Non, au contraire, je vois que toujours ce miracle de Dieu se renouvelle, c'est que je suis à nouveau stimulé. Donc, se réunir avec qui, j'ai dit, ceux qui partagent la même foi, ceux avec qui vous êtes en communion. Réunion, communion, commune union. On se réunit pas avec n'importe qui. Il y a des gens, je peux les saluer, je peux être aimable avec eux, on peut échanger quelques banalités, mais on n'a pas vraiment des choses en commun. Au bout d'un moment, la communion s'arrête. Alors qu'il y a des personnes où on peut travailler ensemble, on peut dire, on partage vraiment les mêmes buts, la même vision, on veut gagner des personnes à Christ, on veut répandre la connaissance de la parole de Dieu dans le monde entier. Vous vous rappelez, Romains 10, quand il est dit, quoi? Leur voix est allée jusqu'à l'extrémité de la terre. Ça, c'est notre vision, notre voix, et elle y va. Elle circule par tous les moyens que Dieu nous donne. Ensuite, on veut se réunir avec qui? Avec des gens qui nous font du bien. Quand on dit que l'Église, ça doit être une oasis d'amour dans un monde troublé, dans l'Église, on ne veut pas retrouver les mêmes problèmes qu'on a déjà ailleurs, où les gens se tapent dessus, se critiquent et se font du mal. L'Église, c'est l'endroit où justement, on a compris ce qui se passe à l'extérieur et on veut montrer que c'est possible de vivre la dimension du royaume. Bien sûr, on n'est pas parfait, il y aura des erreurs de parcours, il y aura des blessures, c'est pourquoi on a lu tout à l'heure les choses qu'on a besoin de se pardonner, de se donner des nouvelles chances. Mais fondamentalement, on n'est pas à l'Église pour se faire la guerre. C'est ridicule. Dans Galates 5, verset 13, il dit « Frères ou sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair et rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Il n'est pas dit « rendez-vous par obligation » parce que c'est la loi dans cette église locale, tout le monde doit servir, mais il nous est dit « rendez-vous par amour ». Vous aimez les autres? Vous voulez leur faire du bien? C'est facile. Chez nous à la maison, on ne se dispute pas pour dire qui va faire ceci et cela. Au contraire, nous sommes prévenants quand avec mon épouse, on est toujours là à vouloir voir qu'est-ce que je pourrais faire pour lui rendre service. Qu'elle n'ait pas besoin de se déplacer, qu'elle n'ait pas besoin de faire ceci, cela. Et c'est une illustration de ce qui devrait être dans le royaume de Dieu. Et pas comment je pourrais mieux utiliser l'autre pour que moi, j'ai pas besoin de me remuer. L'amour nous pousse et nous presse à agir. Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous voyez une illustration d'une église, ça? Vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. On essaye de gagner quelqu'un à Christ, il arrive dans une église, il voit, ils sont en train de se mordre, se dévorer, se taper dessus. Alors non, il vaut surtout, il ne faut pas qu'il vienne, parce que sinon il se dira, c'est ça le royaume de Dieu, je n'en veux pas. Donc il est important qu'on laisse le Seigneur nous transformer, qu'on dise, je veux renoncer à ces œuvres de la chair. Je veux marcher selon l'Esprit. Et l'Esprit nous pousse justement constamment à se pardonner, à se donner encore une chance. Pierre a demandé à Jésus, il dit, si mon frère a péché, je dois lui pardonner combien de fois? 7 fois. Il trouvait que 7 fois, c'était déjà bien qu'il avait dit 7 fois. Combien de fois vous pardonnez aux autres? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 fois, on dit, maintenant ça suffit, là tu exagères, hein. C'était pas sincère ton repentir de tout à l'heure. Sinon, tu n'aurais pas recommencé. Donc, avec 7, Pierre était déjà loin et Jésus dit, non pas 7, mais 7 fois 70. Ça fait 490 fois. Et j'ai pensé à une nouvelle interprétation de cette chose. Pas seulement s'il vient, ça fait 490, ça veut dire s'il vient avec son même problème, c'est sa faiblesse, c'est sa manière, son attitude, ou quelque chose qu'il a fait qu'il n'aurait pas dû, s'il vient, tu lui pardonneras toujours. C'est pas jusqu'à une certaine limite, et maintenant ça suffit. Non, t'as exagéré. Toujours. Toujours quand il reviendra. Et je me suis dit, peut-être c'est réglé entre vous et lui, mais peut-être c'est pas réglé en vous. Et que cette pensée veut revenir encore. Il m'a fait, elle m'a fait. alors tu lui pardonneras encore. Voyez ce que je veux dire? Chaque fois que cette pensée veut venir en vous, même si vous avez exprimé de vos lèvres et sincèrement pardonné à quelqu'un, à un moment donné, le diable veut vous rappeler. Le Seigneur dit, et chaque fois tu lui pardonneras. Chaque fois tu prends à nouveau cette décision de dire, j'ai pardonné, c'est fini, on n'en parle plus. Chaque fois. Ceux qui vous font du bien, non pas pour se détruire. Et j'ai dit, bon, il y a des blessures qu'on fait par maladresse, il y a aussi des blessures qu'on fait parce qu'on est obligé de dire des fois certaines choses. Le proverbe dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si quelqu'un est sur la route et puis il arrive à proximité d'un pont, mais le pont s'est écroulé, il va rouler et puis la voiture, elle va passer dans le ravin. Ne dis pas, oh non, je ne vais pas l'arrêter. Peut-être il ne va pas aimer si je le stoppe au bord de la route. Ça va le fâcher que je lui fasse signe de s'arrêter. Et donc vous le laissez continuer. Non, on va faire des signes. Hey, stop, il faut arrêter, tu vas te retrouver dans le fossé. Et dans les choses spirituelles, c'est la même chose. Vous ne voulez des fois pas prendre le risque de dire à quelqu'un, arrête-toi, tu es dans la mauvaise direction. Ou je crois que ce que tu fais, ça ne va pas te faire du bien. Donc des fois, il faut réagir. Et la personne peut mal réagir, peut se trouver blessée à cause de ça. Donc je disais, il y a des choses qu'on fait parce que des fois, on est encore capable de méchanceté. Des fois, on le fait par maladresse. Et des fois, on peut blesser parce que simplement, on est obligé de dire des choses qui sont désagréables. Mais il nous est dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ce désir sincère de bénir les autres et de les aider. Dans 1 Corinthiens 11, hein, l'Église, elle était déjà en mauvais état à l'époque et elle a toujours les mêmes problèmes parce que la nature humaine est toujours la même. On a toujours à lutter contre ça. 1 Corinthiens 11, 17. En donnant à cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça, ce n'est pas un bon motif de réunion, pour devenir pire. On n'a pas besoin de se réunir pour devenir pire. Alors, il vaut mieux qu'on dise, voilà, là, on préfère pas se réunir que de se réunir pour devenir pire. Mais vous voyez, donc c'est un vrai défi. Pourquoi? Parce que le diable, il sait qu'il peut être vaincu par l'Église. Parce qu'il sait les déclarations de Jésus, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. L'Église, le corps de Christ, est quelque chose qui est tellement puissant qu'elle peut gagner contre n'importe quelle autre puissance qui est sur terre. Donc, il faut la détruire, il faut l'éclater, il faut la morceler. Il faut faire qu'ils se dévorent les uns les autres pour que surtout ils ne s'occupent pas de moi. Je parle maintenant en me faisant l'avocat du diable. Pendant ce temps, on ne s'occupe pas du vrai problème, l'ennemi de nos âmes. On croit que l'ennemi, c'est le frère, c'est la sœur, c'est le pasteur, c'est un tel. Non, l'ennemi de nos âmes, il est clairement identifié. Mais une fois de plus, il essaie de ruser, de se cacher et de faire que ce n'est pas lui. Réunissez-vous avec, donc, ceux qui partagent la même foi que vous, ceux qui sont en communion, ceux qui font du bien, et gardez à la pensée aussi que des fois les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est dit que si vous vous associez avec quelqu'un, veillez bien avec qui vous vous associez. Vous pouvez saluer l'homme de la rue même si c'est le pire criminel pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais devenir son ami, ça c'est une autre chose. Vous ne savez pas qui influencera qui. Donc, prenez garde, parce qu'il nous est dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Des fois, on croit qu'on est plus fort qu'on est en réalité. Et donc, à chaque fois, n'allez pas à l'église, soyez l'église. N'allez pas aux réunions, mais réunissez-vous. Il y a deux choses de votre part. Vous devez exercer votre volonté. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Et deuxième, c'est agir. Parce qu'avoir de la volonté, c'est bien. Après, il faut que ça soit suivi d'une action. Et donc, pour une illustration, parce que souvent, il y a des illustrations au niveau mariage, au niveau relation, etc., qui marchent très bien avec l'Église, puisqu'on a l'épouse et puis on a l'époux. Je me rappelle de cet homme qui faisait du conseil conjugal et toutes sortes d'enseignements sur la famille. Il s'appelait André Adoul. Et il avait une belle illustration. Il disait... Entre un jeune homme et une jeune fille, le jeune homme, il était amoureux et puis il voulait épouser la jeune fille. Et puis, elle disait, non, je ne suis pas sûr de mes sentiments. Il y avait des sentiments, mais elle n'était pas sûre. Et il a dit, je ne sais pas ce que je lui avais répondu à l'époque, mais je sais ce que je lui dirai maintenant. Et il dit, il devrait lui dire chérie, parce qu'il faut dire chérie. Elle dit, tes sentiments, je m'en moque. Veux-tu m'épouser, oui ou non? Pour dire que c'est vivre ensemble le reste de sa vie. Ça ne peut pas dépendre d'un sentiment, même si c'est le plus beau sentiment. À un moment donné, il faut engager sa volonté. Il faut engager sa volonté et dire, oui, on veut vraiment construire quelque chose ensemble. C'est ça qui compte, vous voyez? Et finalement, notre vie chrétienne, même s'il y a des beaux sentiments de connaître Jésus et de voir combien il nous aime et tout le reste, à un moment donné, il faut engager sa volonté. Pour l'Église, c'est la même chose. Engager sa volonté par rapport à l'épouse et dire, oui, moi j'y vais et je veux la bénir, je veux faire du bien, je veux me faire du bien. C'est pas interdit non plus. Troisième et dernier point, n'allez pas à des rencontres, mais rencontrez-le, lui. Parce que, on dit le culte, la messe, l'assemblée, la réunion, que sais-je. Maintenant, on a inventé aussi le mot rencontre, parce que c'est bien, c'est se rencontrer, mais rencontrez-le, lui, d'abord. D'abord, lui. Mettez-le en premier. Il nous est dit que, par rapport à notre relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un ennemi de nos âmes qui veut nous empêcher. Si le contact s'établit entre nous et Dieu, c'en est fait de lui, hein. Parce que, au travers de nous, la puissance de Dieu va se manifester sur terre. Donc, chaque fois, il va perdre un morceau de son royaume. Chaque fois. Chaque fois, nous allons gagner du terrain sur lui. Donc, il faut absolument empêcher ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous harcèle jour et nuit, par toutes sortes de façons. Il n'arrête pas. Il tire ses traits enflammés sur vous, constamment. Et donc, l'apôtre Paul exhorte le chrétien à être armé. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, rencontrez-le, lui. C'est auprès de lui que vous allez recevoir la puissance. Elle est nulle part ailleurs. On pense l'Église, si elle avait ceci, si elle avait cela, on pourrait faire ceci, cela. Mais d'abord, on a besoin de lui, lui-même, qui agit avec sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Trop souvent, il y a des armes, on les a un peu perdues en cours de route. Il faut les réajuster, il faut que l'armure soit nouveau bien en place, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand c'est la dernière fois que vous êtes battu contre tous ces gens-là? Il y a peut-être 5 minutes, il y a peut-être 1 heure. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de les voir physiquement. Ça ne veut pas dire que vous allez être possédé par un démon, mais il y a constamment la puissance de l'air autour de nous qui essaie de nous empêcher le contact avec Dieu, empêcher notre influence. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Pas seulement quand ça va bien, aussi des fois quand c'est difficile. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'esprit. C'est ça la clé. Vous êtes l'Église, partout où vous allez, priez dans l'Esprit. Soyez en communion avec Dieu, méditez sur lui. Il n'y a pas un moment où je prie dans l'Esprit, et puis le reste, 99% du temps, je marche dans la chair. C'est tout en tout temps. Donc, soyez zélés pour le rencontrer, lui. Ayez ce zèle à vos pieds pour aller vers lui. Soyez passionnés pour Jésus. Désirez le rencontrer. Et rappelez-vous, tout ce qu'il a fait pour vous, on est là pour ça aussi, pour se rappeler de ses bontés. Des fois, avec ce qui nous arrive dans le quotidien, le diable fait tout pour qu'on focalise sur ce qui ne va pas. On est dans un sale état, on est peut-être aussi touché par la maladie ou la fatigue ou d'autres choses, et on est ensemble, en tant que chrétiens, pour nous rappeler, mais lui, ses promesses, sa présence. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On le dit ensemble ? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ne nous détournons pas de cet amour en le rejetant, en ne l'accueillant pas. Pensez au premier amour, pensez à la spontanéité, la fraîcheur du premier amour. Premier amour, c'est ça d'abord. Le reste, tout le reste passe après. Premier amour, c'est pas un amour qu'on a eu il y a longtemps et qui était merveilleux et maintenant c'est de moins en moins bien parce que la routine, l'amorosité, l'ennui se sont installés. C'est pas ça. Le premier amour, c'est il reste premier dans notre vie. Il reste premier, c'est pas un moment où on se convertit, là Jésus a la première place et après il passe à la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, parce que les choses de la vie reprennent le dessus. Il reste à la première place. D'abord lui, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Qu'est-ce qu'il désire? Pas par obligation, mais il désire par amour, on se rend serviteur. Et donc, n'allez pas à des rencontres, mais rencontrez-le dans ce qu'il nous propose lui-même. Apocalypse 3, quand il nous invite à souper avec lui. Le souper, c'est ce repas du soir, le repas que partagent les amis ou que partagent les gens de la famille. Il y a une certaine intimité dans ce repas. Mais d'abord, il y a autre chose. Il nous dit, pas, c'est à la fois des reproches, c'est pas seulement des reproches, c'est surtout un constat. Il dit, je connais tes œuvres, je sais tout ce que tu as fait. Ne me fais pas la liste de tout ce que tu as fait pour moi, je la connais. Je sais ce que tu fais. C'est pas la question. Je sais aussi que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que quand on est tiède, il nous dit, ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je peux rien faire avec toi tant que tu es un peu au milieu. Tu n'as pas vraiment le désir de me servir. Tu es assez bien comme ça. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je désire. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie, quoi? Qui? Tous ceux que j'aime. C'est un message d'amour. C'est pas un message de reproche. Oh là là, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il exige de moi? Toujours des reproches. C'est pas des reproches. Il te dit, regarde simplement l'état dans lequel il est. Si vous allez chez le docteur et qu'il fait le diagnostic, vous dites, oh, c'est pas gentil, docteur, ce que vous me dites sur moi, hein, franchement. Hein. Je voudrais entendre, vous êtes en super forme, forme olympique, vous n'avez besoin de rien. Bien sûr, on aimerait peut-être entendre ça, mais si on a besoin d'être soigné, il vaut mieux qu'il fasse un bon diagnostic. Donc là aussi, si Jésus vient avec des paroles, vous êtes une église formidable, chacun de vous est merveilleux, vous êtes extraordinaire, les meilleurs chrétiens de la ville, de la région, même du pays. Ça ne nous aide pas, d'accord? Mais ce qu'on a besoin d'entendre, c'est qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux transformer? Là, il dit, regarde ce que tu peux changer, c'est venir à moi. Aie du zèle, viens à moi, aie du zèle, sois zélé pour les choses de Dieu. Repens-toi, ça veut dire ce qu'on dit depuis le début. Change la façon de penser. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je n'enfonce pas la porte. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et pourquoi avoir précisé ça? Moi avec lui et lui avec moi? Bah, c'est pour bien manifester cet échange, cette façon de le faire ensemble. Veux-tu le rencontrer, lui? Tu veux le rencontrer? Vraiment? Tous les jours? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour le rencontrer plus? Tu peux te préparer. Tu peux revêtir des habits de fête. Ne sois pas en retard à ton rendez-vous avec lui. Parce que, normalement, quand on aime quelqu'un, on arrive largement à l'heure, parce qu'on a trop peur de rater le rendez-vous, on est impatient de rencontrer la personne aimée. Et rappelez-vous qu'il y en a qui sont venus trop tard. La parabole des vierges sages et des vierges folles, certaines sont venues, elles ont frappé, la porte était refermée, c'était terminé. Donc il y a un moment maintenant aussi pour saisir cette occasion. Et en conclusion, je dirais, dans 2 Timothée 1,6, il nous est dit, ranime la flamme du don. Tu as la flamme en toi, tu as la présence du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour chercher quelque chose, ni de l'autre côté de la mer. Tu l'as en toi. Ranime la flamme du don. Ce qui a été déposé en toi par le Saint-Esprit te suffit. Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte. Si vous êtes dans la crainte, dans la timidité, dans la frayeur, tout cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu nous a donné. Dieu ne nous donne pas des choses comme ça. Il nous est dit, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Des fois, il y a des souffrances, il y a des moments difficiles. Peu importe, parce qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. C'est un honneur de le servir, d'être appelé par vous, par lui, comme pas seulement moi, mais vous aussi, selon son propre dessein, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité pour l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Vous avez aussi cette force de persuasion en vous qui vous dit que vous, il a la puissance de garder notre dépôt. Alors, disons la dernière partie ensemble. Je retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que j'ai reçues. Je garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en moi. Amen. Donc, je vous encourage vivement à constamment rechercher le feu de Dieu et l'action du Saint-Esprit en vous.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.